Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonsoir à tous et à toutes, c'est comme un lundi, l'hebdomadaire particulière de Radio Albitzes. Et nous sommes le 23 mai 2022. Cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale autour des intervenants des conférences programmées sur la 40e foire Biocibelle organisée par Nature et Progrès Tarn et qui aura lieu les dimanches 5 et lundi 6 juin au parc de la Bousquetarié à Groyer. Agriculture, santé, économie, habitat et énergie sont les thématiques qui seront abordées sous les chapiteaux des conférences et forums. On entendra dans cette émission Mathieu Dalmé au micro de Mathieu Alloz, de nos amis de Air d'Otan, puis Françoise, membre du projet d'habitat participatif au Jardin La Bastide. Elle nous parlera de ce que peut vouloir dire habiter autrement. Toujours au micro de Mathieu Alloz, nous entendrons Paul Ariès nous parler de la table à travers les cultures et les siècles, notamment, mais on parlera aussi de véganisme, et nous parlerons de nos réels besoins, ou du moins du contexte dans lequel les économistes atterrés ont coécrit le livre « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» avec Mireille Bruyère. Comme un lundi spécial Biocibelle, c'est parti.
La réponse à comment nourrir le monde, elle est très simple, elle tient en deux mots. Souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que c'est ? Un projet de mise en place de politiques agricoles protectionnistes. Bon, le lien entre des politiques agricoles protectionnistes et nourrir le monde, bah en fait c'est assez simple quoi. C'est que la situation, c'est pas un problème de production, de manque de production. L'idée d'après les chiffres de la FAO, hein, c'est qu'on est 1 milliard de personnes sur Terre à souffrir de la faim dans le monde. Aujourd'hui c'est un peu moins. Hein, on est à 860 millions, mais en 2008 on est autour d'un milliard, qu'on est 7 milliards et qu'on produit pour 12 milliards.
Mathieu Dalmé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur la radio Air d'Otan ainsi que radio Albitges pour la présentation des conférences gesticulées qui vont avoir lieu à Biocibelle, la foire Biocibelle, en ce début du mois de juin. Donc, vous allez faire, vous, une conférence gesticulée le lundi à 11h. Une conférence gesticulée, qu'est-ce que c'est ?
C'est une démarche d'éducation populaire. Ça se présente sous forme de spectacle théâtral, de vulgarisation à la fois politique et scientifique sur un sujet qui s'inscrit dans un récit de vie, dans le fait de raconter et non expliquer comment, en tant que personne, on a été amené à partir sur une façon d'expliquer des situations problématiques, insatisfaisantes face auxquelles on était confronté dans notre vie, et de pouvoir trouver des moyens d'explication dans la science, dans la compréhension, dans l'analyse sociologique et politique qu'on peut faire de notre société.
Qu'est-ce qu'apporte ce mode de conférence ?
On n'est pas sur une conférence qui va faire appel uniquement à la raison et à la réflexion. On est sur une conférence qui part du principe qu'on a d'abord un individu qui parle, qui est sensible avec ses émotions, son parcours, sa façon de voir les choses. Et ça rend la personne plus accessible et plus facilement écoutable pour le public. On est sur des conférences qui souvent sont assez longues, des formats de plus d'une heure et demie. Et très, très souvent, le public, à la fin, se dit « Oh là là, mais j'ai pas vu le temps passer !» Parce que se concentrer pour écouter quelqu'un qui parle sérieusement pendant un long moment, c'est pas facile, c'est voire impossible. Alors qu'écouter quelqu'un qui nous raconte une histoire, qui nous raconte sa vie et comment il a évolué, et ben on suit et ça rend une capacité à s'approprier des réflexions plus abstraites à une part plus importante de la population.
Donc la question de la faim dans le monde, c'est pas une question de production, c'est pas non plus une question de est-ce que une agriculture paysanne, agroécologique ou biologique pourra nourrir. Bien sûr que oui. La question, c'est vraiment en fait, une question de pauvreté. Une question de, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas avoir accès aux produits. Et qui c'est, ces personnes qui n'ont pas accès à cette alimentation ? C'est des paysans et majoritairement des paysannes. dans les pays du Sud, donc à plus de 95%, hein, hormis quelques situations de conflit ou de guerre qui a faim aujourd'hui dans le monde, c'est des paysannes et des paysans en zone rurale qui sont trop pauvres pour pouvoir s'acheter à manger. Et pourquoi ils sont pauvres ? Bah parce que l'organisation libérale de l'économie fait que leur production se retrouve en concurrence avec des systèmes industrialisés qui ont des économies d'échelle très fortes, qui fait que leur production est moins chère et qui aussi produisent des produits de très mauvaise qualité. Et du coup, bah, ils se retrouvent absolument incapables de vivre de leurs produits et une des conséquences, c'est qu'ils ont faim.
Votre conférence, Mathieu Delmé, va avoir lieu le lundi à 11h. Sur quelle thématique va-t-elle porter ?
Alors moi, je suis agronome. J'ai une formation autour des questions d'agronomie. Et j'ai un parcours professionnel aussi dans cette voie-là. Et j'en ai pas vraiment bifurqué, mais en tout cas, je me suis intéressé aux questions d'alimentation à partir de 2016-2017, professionnellement, et puis par la suite... encore dans toutes mes activités. Et ce que je raconte, c'est pourquoi j'ai fait cette bascule, pourquoi j'ai eu la conviction qu'à un moment donné, on ne pourrait pas transformer l'agriculture vers une agriculture plus respectueuse de ses producteurs et de ses productrices et de l'environnement sans réfléchir collectivement à transformer notre alimentation, à la fois dans qu'est-ce qu'on veut manger et d'en décider collectivement, de sortir de la logique où c'est le marché et les lobbies qui vont organiser la production agricole et sans démocratiser l'accès à une production de qualité, là où on voit qu'aujourd'hui, toutes les alternatives agricoles sont réservées à une minorité de la population. Et donc, ce cheminement intellectuel, je vais témoigner de ça et en même temps expliquer les bases des travaux que je fais actuellement sur la sécurité sociale de l'alimentation, l'idée de se doter d'un projet qui permettrait de construire un système alimentaire durable.
Comment en êtes-vous arrivé à cette idée de sécurité sociale de l'alimentation ?
Comme je le disais dans la réponse précédente, c'est l'impasse de notre capacité de transformer l'agriculture avec uniquement des politiques agricoles, face aux enjeux d'accès aujourd'hui, face aux coûts qu'il est nécessaire d'avoir pour des produits de qualité, pour rémunérer correctement tout le travail qui va être fait en s'émancipant peut-être un peu de certaines techniques à la fois destructives pour l'environnement ou pour le climat, d'avoir recours à trop de robotisation, de numérisation ou de pétrole. Et pour l'environnement, sur tout un tas de pesticides, et ainsi de suite. Bref, tout ça, ça va conduire la transition écologique et respect des droits des travailleurs paysannes et paysans va conduire à une augmentation certaine et forte de notre coût d'alimentation. Et là où aujourd'hui, toute une partie de la population est déjà sur le carreau quand il s'agit de pouvoir s'alimenter simplement, et en partie encore plus grande quand il s'agit de pouvoir s'alimenter avec des produits de qualité. On estime que c'est 40% de la population aujourd'hui qui n'a pas du tout accès à ces produits-là. On pense que la construction d'un système alimentaire durable, elle passe nécessairement par le fait de construire une organisation sociopolitique dans laquelle tout le monde sur un territoire a accès à la production qui est faite et peut manger et peut assurer le droit à l'alimentation pour tout le monde, d'avoir un accès permanent, régulier et digne à une alimentation qui lui convienne. Et donc, cette conviction-là qui m'a emmené sur les bases de la sécurité sociale de l'alimentation, plus la conviction que les façons dont on répond aujourd'hui au droit à l'alimentation, qui est ultra majoritairement l'aide alimentaire en France, est indigne, au regard des travaux qui ont pu être menés par Dominique Paturel ou par Bénédicte Bonzi, qui a développé la notion de violence alimentaire. L'aide alimentaire est aujourd'hui récupérée par le complexe agro-industriel comme une façon d'en faire sa filière d'écoulement de la surproduction et pas du tout au service du droit à l'alimentation des plus pauvres. Et donc la nécessité de construire réellement un accès digne à une alimentation pour moi et pour toutes celles et ceux qui travaillent dans le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation aujourd'hui, elle passe par un accès digne à une alimentation de qualité. Et puis, troisième point qui m'a amené à travailler sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est la connaissance par les travaux de Bernard Friot, de Réseau Salariat, de la façon dont la sécurité sociale de santé, en tout cas le régime général de sécurité sociale entre 1946 et 1967, a permis la construction d'une organisation démocratique d'un secteur économique donné, principalement la santé, avec des caisses locales de travailleurs organisés qui vont décider de comment on produit du soin et de comment on assure l'accès de tous à ce soin-là, transformer complètement la santé de la population, augmenter en 20 ans de 30 ans l'espérance de vie en France. Et donc, c'est peut-être l'expérience la plus aboutie au niveau mondial de construction de démocratie dans un secteur donné à une échelle macroéconomique qu'échelle de la nation française. Donc, de se dire d'un point de vue même pragmatique, quitte à avoir des objectifs ambitieux si on veut transformer toute l'agriculture, autant s'appuyer sur des solutions qui ont déjà fait leurs preuves. Et la dernière, quatrième pilier, après voilà la conviction des impasses de transformer uniquement l'agriculture, la nécessité de faire appliquer le droit à l'alimentation, la conviction que le modèle de sécurité sociale, c'est une bonne base pour penser ces choses-là, la quatrième chose qui va motiver pour se lancer, c'est de dire qu'on a besoin aujourd'hui de rêver, on a besoin de penser autrement, on a besoin de se figurer comment pourrait être un autre monde pour avoir des luttes pour, parce qu'il faut retrouver un goût offensif dans nos luttes, dans nos mouvements sociaux, là où on est fatigué par des luttes défensives qui sont tout à fait nécessaires, hein. Mais prendre aussi le temps de rêver et de penser autre chose, on pense que ça fait partie du combat aujourd'hui pour une transformation de la société.
Merci beaucoup Mathieu Dalmé. Dalmé, je rappelle que vous serez en conférence à Biocibel le lundi 6 juin à 11h pour cette conférence gesticulée intitulée « De la fourche à la fourchette, non l'inverse, pour une sécurité sociale de l'alimentation ». Merci beaucoup.
Le forum Habiter Autrement proposera le lundi 6 juin à 16h au parc de la Bousquetarier à Groyer, toujours lors de la foire Biocibel organisée par Nature et Progrès Tarn, de rencontrer trois projets d'habitat participatif du Tarn, Les Amars, COP à vivre et Au Jardin La Bastide, que nous présente Françoise. Françoise, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Françoise, vous faites partie d'un collectif Au Jardin La Bastide, c'est bien ça?
Oui, c'est un projet d'habitat participatif qui s'appelle effectivement Au Jardin La Bastide et qui est basé, c'est un projet, ce futur projet est basé sur la commune de Coufouleux, juste à côté de Rabastens.
Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'un habitat participatif ou coopératif? Et quel a été le déclic pour vous de rentrer dans ce projet?
Alors, moi, je vais garder de façon générale le terme habitat participatif, parce qu'effectivement, c'est un terme générique. Hein, on en parle partout, il y en a partout dans toute la France. Maintenant, c'est un terme générique. Et ce qui relie tous les habitats participatifs, c'est le projet immobilier. Il y a un groupe qui se réunit pour faire un projet immobilier. C'est la volonté de partager des locaux, hein, des maisons communes, des locaux vélos, des buanderies, etc. Et puis, c'est la volonté de créer un collectif avec un objectif de faire et vivre ensemble. Mais à côté de ces objectifs un peu génériques, chaque habitat va construire son propre habitat. En fait, ça peut être coopératif, ça peut ne pas l'être, au niveau de la structure juridique, au niveau de l'architecture, au niveau de la volonté écologique, au niveau de la quantité de personnes qui vont habiter cet habitat collectif, ça peut être complètement différent. Donc, en fait, à côté de ce générique, nous, on a notre propre spécificité. On a nos propres spécificités, en fait.
Alors, justement, Au Jardin de la Bastide, c'est quoi vos spécificités à vous?
Alors, notre propre spécificité, d'abord, c'est que vraiment, on est soutenu, vraiment, on a été soutenu dès le départ par la mairie de Coufouleux. Et ensuite, c'est un grand habitat, hein, puisqu'il est prévu pour 30 foyers. C'est un habitat qui rentre dans le cadre de l'habitat social, puisque au niveau budget financier, comme c'est un projet pour 30 foyers, c'est un budget quand même qui est très conséquent. Comme les habitants ne peuvent pas porter par eux-mêmes ce budget au niveau financièrement, c'est un promoteur social, hein, le COL, le Comité ouvrier du logement, qui est donc basé sur Toulouse et dans les Pyrénées, qui prend en charge ce projet, mais ça se fait en co-conception avec eux, c'est-à-dire que les habitants qui se sont donc mis en association dès le départ ont construit le projet en conception avec le COL, donc notre bailleur social, avec les architectes et avec donc tous les acteurs. C'est-à-dire que vraiment les décisions se sont prises en commun et c'est pour ça que même si nous n'habitons pas encore dans ce projet, puisque l'habitat est prévu pour 2024, nous considérons que nous sommes déjà dans le participatif et dans l'implication participative, puisque depuis le départ, on a choisi, c'est les habitants qui ont choisi les architectes, on est dans un maximum de réunions qu'on peut faire avec le COL. Donc on est vraiment acteur de notre projet, mais dès la conception, c'est ça que je veux dire. Après, notre projet, donc c'est sur un terrain d'à peu près 1,8 hectare. Notre objectif, c'est de prendre le moins possible de surface au sol pour laisser le plus possible de part donc à la nature. Donc, tout le monde est en rez-de-chaussée et en R+1, soit par petit collectif de 4 appartements, 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage, soit donc des petites maisons duplex, c'est-à-dire vraiment une maison individuelle avec un rez-de-chaussée à l'étage, qui sont mitoyennes, puisque comme l'objectif c'est de prendre le moins possible de surface, eh bien on se sert un peu les uns les autres, tout en aérant le projet, évidemment, et puis c'est aussi dans un souci écologique, en se serrant les uns les autres, on va quand même donc faire des économies au niveau de l'énergie. Mis à part ça, le projet est vraiment conçu dans un souci aussi de vivre ensemble. C'est-à-dire que l'habitat, il y a une partie nord, une partie sud, une partie est, une partie ouest. Et entre toutes ces orientations, eh bien, il y a comme une place centrale, si vous voulez, que nous on nomme Agora. Donc chacun est chez soi, dans son logement, dans son appartement, dans sa maison individuelle, et en même temps on sait que quand on sort de sa maison, eh bien on se retrouve dans toutes les parties communes, que ce soit l'agora, que ce soit le bois, que ce soit la maison commune, que ce soit un grand jardin partagé de plus de 4000 m². Et donc c'est vraiment un mariage entre l'habitat individuel et l'habitat collectif et le faire et vivre ensemble. Puisque, évidemment, mis à part cette structure d'habitat, l'objectif c'est de respecter la vie individuelle, mais l'objectif c'est effectivement de savoir qu'on s'implique aussi dans un projet de faire et vivre ensemble. Voilà. Et juste pour ajouter, c'est que à côté de notre habitat individuel, vraiment dans le prolongement, chaque foyer qu'il habite un T2, un T3, un T4 ou un T4 bis a un petit jardin individuel, donc à peu près environ 200 m². Voilà. Donc notre volonté, c'est à la fois de marier l'individuel et puis de faire vivre ensemble sur un terrain donc acouphouleux. Et donc dans vraiment une ville qui nous accueille avec tous les services que peut offrir donc une ville, tout en étant vraiment très proche de la campagne, on est très proche du Tarn, on est très proche des sentiers de randonnée, et donc c'est vraiment un très bon compromis.
Peut-être en quelques mots, on va pas faire le débat ou l'échange, puisque vous serez donc sur la foire Biocibel avec d'autres projets comme les Amars avec Jean-Pierre Masson et Cop à vivre avec Gaëtan Goebbels, mais juste oui. En quelques mots, pour vous personnellement, est-ce qu'il y a des peurs à surmonter dans ce genre d'aventure, lesquelles? Et puis les moteurs qui vous ont fait justement peut-être dépasser des peurs ou des préjugés sur l'habitat participatif ou peut-être des pertes de d'intimité, etc.
Alors donc, eh bien, oui, c'est-à-dire dans une main j'ai mes peurs et dans une autre main j'ai toutes mes joies, mes espoirs. Eh bien oui, mais c'est sûr qu'on navigue en permanence entre l'un et l'autre. Comme je le dis, on est dans un projet. Le projet s'est conçu en 2017. On a commencé le projet en 2017. On va en principe y habiter en 2024. Donc déjà, dans toutes ces années qui passent, est-ce que le projet va aboutir? Est-ce que toute l'énergie que je mets va servir à quelque chose? C'est aussi savoir qu'on arrive chacun les uns après les autres. Donc, à chaque fois, le petit groupe grossit, déséquilibre. Voilà. Est-ce que les personnes que je connais depuis pas très longtemps, est-ce que je vais quand même continuer à les apprécier, évoluer? Est-ce que le projet va pas être trop enfermé? Enfin, effectivement, il y a énormément de peurs. Est-ce que j'aurai assez d'argent? Évidemment, puisque là, on rentre dans les réservations. On vient de connaître les prix, donc les réservations vont bientôt commencer. Et c'est très bien parce que, et ça fait partie des grandes joies, c'est que le groupe, si vous voulez, avance, grossit, même si malheureusement il y a toujours des départs et des arrivées, hein, c'est comme ça. Et ça, à chaque fois, c'est triste pour nous. C'est comme ça. Maintenant, on sait que si les réservations vont réellement se faire là au mois de juin, les travaux vont commencer. Donc là, on va réellement rentrer dans le concret. Et là, par contre, c'est toute la joie. C'est toute la joie de se dire que enfin, tous les efforts des architectes, du col, des habitants, enfin, tous les partenaires de ce projet-là vont pouvoir voir réaliser, aboutir à un projet. Voilà. Donc, effectivement, on oscille en permanence avec les peurs, les inquiétudes, les anxiétés, et puis aussi les célébrations et les joies, et puis les joies de voir arriver des familles, des enfants, des seniors, tous les âges, et de savoir que eh bien, on peut créer quelque chose ensemble. En tout cas, on essaye, on travaille sur la gouvernance partagée, on travaille sur la communication non violente. C'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas, on n'est que des humains quelque part, mais on essaye d'avancer. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Françoise. Je rappelle donc que vous serez sous le chapiteau 2 de Biocibel. Ça sera lundi à 16h sur le forum Habiter Autrement. Et vous partagerez donc les échanges avec les projets Les Amars et COP à Vivre. On verra donc, vous pourrez, les auditeurs et auditrices pourront vous questionner, voir un peu les différences entre les projets, les approches différentes et pourquoi pas se lancer aussi dans d'autres projets, peut-être dans le Tarn ou ailleurs. Faire peut-être un réseau d'entraide entre les projets d'habitat participatif. Merci beaucoup.
Est-ce que je peux ajouter quand même quelque chose?
Oui, allez-y.
Juste ajouter quand même l'adresse de notre site internet. Hein.
Oui.
C'est quand même important. Donc, notre site internet, c'est aujardinlabastide.fr, tout simplement, aujardinlabastide.fr. Et notre adresse mail, c'est aujardinlabastide@gmail.com. Donc, pour toute question ou tout renseignement, ne pas hésiter à se référer à ces deux adresses.
Voilà, au jardin avec la lettre O, jardin, la Bastide, tout attaché,
point. Oui, 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 vous avez raison, avec la lettre O.
Merci beaucoup. Rendez-vous donc ce lundi 6 juin à 16h au chapiteau forum de Biocibel à Groyer pour parler habitat participatif.
Comment ça va? Comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler.
Sur Radio Albigès, on fait tout pour vous faire aimer le lundi. C'est comme un lundi.
Ni sale viande, ni fausse viande, défense de l'élevage paysan et histoire de l'alimentation depuis la préhistoire, ce sont les deux temps de conférences que vous propose Paul Ariès sur la foire Biocibel les 5 et 6 juin prochains. Mathieu Alloz, de nos amis de Air d'Otan, l'a contacté au téléphone pour, succinctement, présenter ces deux thématiques.
Monsieur Paul Ariès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Albigès et Radio Air d'Otan pour parler des conférences Biocibel qui vont avoir lieu d'ici le début du mois de juin. Donc, vous êtes conférencier également essayiste politologue, c'est bien ça?
Oui, c'est-à-dire que je suis l'un des rares politologues à être spécialisé sur l'histoire de l'alimentation, non pas seulement qu'est-ce qu'on mange, mais aussi qu'est-ce que manger veut dire.
Alors pourquoi vous êtes spécialisé? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la thématique de l'alimentation?
Ben moi, ce que je voudrais partager avec les paysans et les mangeurs du Tarn, c'est déjà un constat. C'est que nous sommes aujourd'hui face à une double révolution alimentaire. La première révolution, c'est celle du contenu de l'assiette. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mangera demain? Et le maître mot de cette première révolution, c'est l'industrialisation des produits, leur dénaturation. Alors cette première révolution, vous la connaissez déjà. Ce sont les OGM, première, deuxième, troisième génération, ce sont les aliments restructurés, mais c'est surtout les biotechnologies alimentaires, dont par exemple l'agriculture cellulaire. L'agriculture cellulaire, c'est cette volonté de fabriquer dans un premier temps de la fausse viande, du faux lait, du faux fromage, des faux œufs, du faux miel. Puis ensuite, eh bien, on aura tout simplement des faux fruits et des faux légumes. C'est-à-dire qu'il s'agirait de considérer que cette période historique, ouverte avec la révolution du néolithique, n'aurait été finalement qu'une parenthèse, et qu'on pourrait aller vers, finalement, une alimentation sans agriculture. Les spécialistes nous disent que 100 vaches seulement à l'échelle mondiale, suffirait pour produire toute la viande consommée actuellement. Alors il y a cette première révolution, hein, celle du contenu de l'assiette, et puis il y a une deuxième révolution, dont on parle peut-être moins, mais qui à mes yeux est tout aussi importante, c'est celle du rapport à l'alimentation. Non plus qu'est-ce qu'on mange, mais comment mange-t-on, qu'est-ce que manger veut dire. Et là, le maître mot de cette deuxième révolution, c'est la déstructuration de la table. C'est-à-dire qu'on mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, et j'ajouterais même, au regard de l'histoire, avec n'importe qui. C'est-à-dire que nous avons accepté cette désymbolisation de la table, cette déritualisation de la table, alors que ce qui fait que nous sommes humains, c'est que quand on mange, c'est pas simplement pour satisfaire l'animal qui est en nous, c'est pas simplement pour satisfaire notre corps biologique, c'est aussi pour satisfaire notre corps onirique, le plaisir, notre corps social, notre dimension politique, écologique. Et si vous prenez par exemple la table française, eh bien la table française, elle reste malgré tout jusqu'à aujourd'hui largement tributaire de l'Antiquité. Je voudrais simplement vous donner trois exemples. Dans l'Égypte antique, il n'existait qu'un hiéroglyphe, un même hiéroglyphe, pour dire manger et parler. C'est-à-dire les vieux Égyptiens avaient inventé finalement la table comme langage. Et c'est la raison pour laquelle ils ont inventé ces premiers symboles alimentaires, comme le pain, symbole de la vie éternelle, ou le vin, symbole de l'humanisation, puisque les dieux égyptiens était réputé ne pas aimer l'alcool, et donc boire du vin, c'était rappeler aux humains quelle était leur place entre les dieux et les animaux qui n'en buvaient pas non plus. Et puis on doit aussi quelque chose à la table grecque ancienne. En grec ancien, il y avait un seul mot d'ail pour dire manger et partager. Je mange égale je partage. Et on retrouve ça dans la langue française. Le mot copain, compagnon, celui avec qui je partage le pain. Le mot ami en vieil araméen, celui avec qui je partage le sel, c'est-à-dire l'esprit. Et puis ce que l'on doit par exemple à la table romaine, c'est ensuite tout simplement la recherche du plaisir. Aucun peuple n'a jamais, je dirais, dépensé autant pour sa table que les Romains, à tel point qu'on va devoir prendre des lois qu'on appelle des lois somptuaires pour pouvoir limiter les dépenses alimentaires. Et puis je dirais, il faut dire quelques mots aussi de nos ancêtres les Gaulois. Ce que l'on doit aux Gaulois, c'est deux choses. Une heureuse et une beaucoup plus malheureuse, vous allez voir. La chose heureuse, c'est que les hommes, les mâles gaulois, sont les premiers à manger assis à table, c'est-à-dire à la façon des femmes, des enfants et des esclaves. Ils inventent véritablement le repas de famille, et ce repas de famille, ça se fait notamment par le partage du lard. Et puis les Gaulois vont inventer une chose beaucoup plus malheureuse, c'est l'obligation du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que pour les grandes cérémonies, on sait que plus de la moitié des animaux qui étaient tués n'étaient pas consommés. Plus de la moitié des amphores ou des tonneaux étaient cassés sans être bu. Parce que pouvoir gaspiller, c'est montrer sa puissance, sa richesse. Mais je ne suis pas sûr que c'est beaucoup changé. Regardez, aujourd'hui, on sait que le tiers de l'agriculture mondiale est gaspillé. Et ceci à tous les niveaux. Au niveau de la production, du conditionnement, du transport, et chacun chez soi. Et dans des pays comme la France, c'est même plus du tiers qui est consommé. Vous savez, l'ONU ne cesse de dire qu'il suffirait de mobiliser chaque année 30 milliards de dollars pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. Alors ces 30 milliards, on ne les trouve pas. Mais le seul gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada, c'est 100 milliards de dollars par an. Trois fois ce qui serait nécessaire pour pouvoir tout simplement nourrir toute la planète. Eh bien, ce que j'ai envie de montrer dans cette conférence sur l'histoire politique de l'alimentation, c'est qu'il est nécessaire peut-être d'inventer, aux côtés de nouvelles politiques agricoles qu'il va falloir développer, inventer de nouvelles politiques alimentaires. Parce que effectivement, nous n'arriverons pas à tout simplement nourrir avec, en plus de la joie, du plaisir, 7, 8, 9 milliards d'humains, si nous ne redécouvrons pas ce que manger veut dire. Et ce que manger veut dire, c'est se rappeler que la table, c'est avant tout cette notion de partage. Et c'est pour la raison pour laquelle, moi, par exemple, dans le domaine de la restauration qu'on appelle sociale, par exemple les cantines scolaires, je suis pour le retour en régie municipale, je suis pour également qu'on aille vers une cantine scolaire gratuite. Mais il ne s'agit pas de rendre gratuite la malbouffe, il s'agit d'aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, surtout carnée autrement, c'est-à-dire à partir de l'élevage paysan. Il s'agit d'avoir une alimentation qui soit issue de l'agriculture biologique, qui soit issue de ce qu'on appelle l'agroécologie. Et puis je dirais qu'il est important peut-être de revenir aussi en service à table. Et d'en finir avec le self. Parce que, vous savez, quand chaque fois qu'on a des études, on se rend compte que les enfants, lorsqu'ils mangent sous forme de self, finalement, ils font la même chose qu'on fait avec notre voiture quand on va à la station-service. Ils font le plein de nutriments, comme on fait le plein d'essence, mais ils ne peuvent rien construire autour de l'alimentation.
Donc ça, c'est quand même fortement la thématique de la conférence qui aura lieu le lundi 14 à, le lundi à 14h.
Alors, j'ai pas la date en tête, mais oui, c'est ça, lundi, de la conférence plus culturelle sur l'histoire politique de l'alimentation du paléolithique à nos jours.
Et donc, une note plus scientifique avec le côté agriculture cellulaire, une espèce d'agriculture et une alimentation très réductionniste où on est réduit à manger des sels minéraux et des nutriments.
Alors, ce que j'ai envie aussi de partager lors d'une autre conférence, c'est essayer de réfléchir sur ce que cache ce qu'on appelle le véganisme. Choisir à titre personnel de ne pas manger de produits ou de sous-produits animaux, hein, de lait, de fromage, de viande, de miel, ou de ne pas utiliser de la laine, du cuir, du sang, de la fumure animale, de la force de travail, c'est aussi légitime que de faire le choix inverse. Ce qui est problématique, c'est de prétendre interdire aux autres de pouvoir manger de la viande, et ce qui est encore plus problématique, c'est de confondre la production industrielle et l'élevage paysan. Le plus important, c'est d'avoir conscience que la vraie alternative n'est pas entre les protéines animales et végétales, comme on voudrait nous le faire croire, mais entre, d'un côté, la production industrielle de ces protéines animales ou végétales, et d'un autre côté, ce qu'on nomme l'agriculture et l'élevage paysan. C'est-à-dire que l'élevage paysan n'est en rien responsable de la faim dans le monde. Les causes principales de la faim dans le monde, c'est la destruction des agricultures vivrières, c'est le brevetage du vivant, c'est le vol de terre en Afrique, c'est le gaspillage alimentaire. Et je dirais que l'agriculture végane, elle serait tout aussi incapable de nourrir 8 milliards d'humains, sans compter les non-humains, que le système industriel. La seule solution pour pouvoir remplacer le fumier animal, les fumures, ça serait d'utiliser toujours plus d'engrais chimiques, de produits phytosanitaires, bref, tout ce qui détruit la terre, tout ce qui détruit l'humus. Et j'ajouterais que l'élevage paysan, qui n'est déjà pas, on l'a vu, responsable de la faim dans le monde, n'est pas davantage responsable du réchauffement climatique, puisqu'une prairie avec ses vaches ne constitue pas une source, mais un puits de carbone. Une prairie d'un hectare absorbe chaque année une tonne de CO2. Et l'élevage paysan n'est pas responsable non plus de la crise de l'eau potable. Alors les végans nous répètent qu'il faut 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de bœuf. Et ils ont raison, mais ils confondent en fait trois types d'eau. C'est-à-dire, il y a d'un côté ce qu'on appelle l'eau bleue, qui est l'eau réellement consommée, et qui ne représente que 3% des 15 000 litres d'eau. Ensuite, il y a l'eau grise, qui sert à l'assainissement des installations, et c'est encore 3% des 15 000 litres d'eau. Et puis il y a l'eau verte, l'eau de pluie, qui demeure dans les prairies, les 94% restants. En fait, ce dont j'ai peur, c'est que le véganisme soit le cheval de Troie des biotechnologies alimentaires. C'est-à-dire non simplement on veut nous imposer cette agriculture cellulaire, c'est-à-dire l'idée de fabriquer dans un premier temps de la fausse viande, du faux lait, du faux œuf, du faux fromage, mais on veut aussi interdire le travail animal. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, n'existe que 60 millions de tracteurs pour plus d'un milliard et demi de petits paysans. C'est-à-dire, les premières victimes du véganisme, ça serait les paysans du Sud. Et les paysans du Sud n'ont pas d'élevage d'abord pour la viande ou pour le lait. Ils ont de l'élevage à la fois pour pouvoir utiliser le fumier, mais aussi pour pouvoir utiliser la traction animale. Ce qu'on voit, c'est que derrière, effectivement, cette vogue végane, c'est une véritable menace sur l'agriculture, et notamment l'agriculture paysanne, c'est-à-dire sur ce milliard de petits paysans. Il est évident que si les grands groupes qui financent aujourd'hui cette agriculture cellulaire, c'est-à-dire les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, investissent autant dans le domaine de la fausse viande, c'est parce qu'ils savent très bien que pour eux, ça peut être un domaine particulièrement rentable. En même temps, très franchement, je ne crois pas du tout à l'efficacité de l'agriculture cellulaire, parce que c'est un modèle totalement énergivore. C'est-à-dire que l'agriculture cellulaire sera incapable de nourrir l'ensemble des humains. Le problème, c'est que avant qu'on accepte de faire ce constat, c'est-à-dire avant qu'on accepte de revenir à une agriculture paysanne, eh bien, on aura massacré toute une partie de la paysannerie mondiale. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de réaliser une nouvelle alliance entre les animaux, les éleveurs, les ouvriers des abattoirs et les mangeurs que nous sommes. Et c'est le sens d'un appel que j'avais signé avec mes amis Carlo Petrini, le président fondateur du mouvement Slow Food International, mais aussi avec Jean Ziegler, l'ancien porte-parole du Fonds agricole mondial, en disant le vrai, aujourd'hui, danger, aussi bien pour le monde paysan que pour les mangeurs que nous sommes tous, ce sont ces biotechnologies alimentaires. C'est l'agriculture cellulaire. Il va falloir, en revanche, en finir, bien sûr, avec l'élevage intensif, avec l'élevage productiviste, mais il faut, au contraire, tout faire pour développer l'agriculture paysanne, l'élevage paysan. L'élevage paysan, c'est pas un moindre mal. C'est une chance pour la planète et c'est une chance aussi pour les animaux. Parce que le vrai débat, c'est pas de savoir si on veut laisser vivre ou si on veut tuer les vaches qui sont dans les prés. Parce que de toute façon, s'il n'y a plus de consommation de viande, il n'y aura plus d'élevage. Et s'il n'y a plus d'élevage, eh bien il n'y aura plus d'animaux d'élevage. Est-ce qu'on veut aller vers un monde sans presque plus d'animaux? Ça, c'est une vraie question et qui dépasse la question de l'alimentation. C'est véritablement une question anthropologique, celle du sens même de nos existences et puis de notre conception du vivant. Vous savez, il y a deux choses qui menacent aujourd'hui les mangeurs et que nous sommes. La première chose, c'est cette agriculture cellulaire, ces biotechnologies alimentaires. Et la deuxième chose, ce sont ces fantasmes urbains, comme quoi il serait possible demain de se passer du monde rural. C'est notamment ce que cachent les fameux projets sur ce qu'on appelle les fermes urbaines, ces fermes industrielles qui produisent aussi bien de la viande que des fruits, des légumes, des céréales. Et on nous dit que ces fermes urbaines seraient super écolo. La preuve, c'est qu'on n'aurait même plus besoin d'insecticides ou de pesticides. Oui, bien sûr, il n'y aurait plus d'insectes, puisqu'on serait sous une atmosphère totalement contrôlée. C'est-à-dire que ces fermes urbaines, c'est le fantasme même d'un monde dans lequel nous aurions totalement pris contrôle sur le vivant, à tel point qu'on accepterait que le vivant qui nous arrange, le fait de faire pousser nos tomates et nos salades hors sol, mais qu'on aurait éliminé, qu'on aurait totalement éradiqué toutes les autres espèces, notamment animales. Eh bien, c'est contre cela qu'il faut que l'essentiel aujourd'hui de la population, et notamment de la population du monde rural, se mobilise, ait conscience des enjeux.
Bien, merci beaucoup Paul Ariès.
Paul Ariès a retrouvé sur la foire Biocibel à Groyer au parc de la Bousquetariée à deux occasions, donc le dimanche à 14h autour du véganisme et le lundi à 14h toujours autour de l'histoire politique de l'alimentation. Vous écoutez Comme un lundi sur Radio Albitzès.
Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
On est toujours dans Comme un lundi et on parle du lundi 6 juin prochain à 16h, toujours sur la foire Biocibel à Groyer. Mireille Bruyère, membre des économistes atterrés, viendra questionner nos réels besoins, comment se loger, se soigner, se nourrir, s'éduquer et faire des choix économiques qui vont vers la sobriété choisie. On l'écoute dans une introduction à sa conférence.
Donc, conférence de présentation de cet ouvrage que nous avons écrit collectivement, les économistes atterrés, qui s'intitule « De quoi avons-nous vraiment besoin ?». Donc, nous allons d'abord commencer par une courte présentation de cet ouvrage collectif. Je suis donc Mireille Bruyère, c'est la personne qui a coordonné l'ouvrage. À côté de moi, j'ai Nathalie Coutinet, David Fléchet, Dominique Plion, Benjamin Coria et Philippe Askenazi. Je vais donc faire une présentation générale et puis ensuite je passerai la parole donc à mes co-auteurs qui présenteront une des parties du livre. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question ? En fait, on est parti, je pense, collectivement de la pandémie et de l'idée que peut-être la pandémie n'était pas un phénomène extérieur et qui était peut-être lié aussi à nos modes de vie, à nos modes de production et d'extraction. Et ça a remis un petit peu sur le devant de la scène quelque chose qui est un fait général, c'est que l'économie n'est pas un phénomène séparé du reste de la société. Et que ce qui caractérise aussi le geste en fait théorique de la pensée hétérodoxe et de la pensée critique en économie, c'est justement cette volonté de sans cesse articuler ou réencastrer l'économie au reste à la question politique bien sûr, mais surtout au social et ici à l'écologique. Et donc il nous a paru très très évident que les crises dont nous faisons face, hein, qui sont systémiques, hein, écologiques évidemment, sociales, politiques, pour nous les économistes atterrés devaient être saisis en réencastrant et en réarticulant le plus possible effectivement la question économique au reste des questions que nous nous posons, et en particulier en partant effectivement de la question des besoins. D'autant plus que l'arrêt net de la machine productive pendant la pandémie et pendant les confinements a dévoilé un petit peu qu'un autre monde est possible, hors de l'accélération productiviste et de la recherche du profit. C'est pour ça que nous avons saisi ce moment pour peut-être repenser la question économique à partir des besoins. D'autant plus que cette réarticulation vient aussi s'opposer à une séparation qui est classique dans la pensée libérale, celle de séparer clairement les questions de production et de répartition des richesses de la question des besoins qui seraient soi-disant hors économiques, dont il faudrait jamais s'interroger, etc. Et donc là aussi, c'est une façon pour nous de s'opposer à la pensée libérale en économie. Donc nous espérons que de remettre sur l'atelier la question des besoins sociaux est aussi une manière de les interroger, non plus de manière punitive, c'est-à-dire finalement il faudrait renoncer, il faudrait se contraindre, etc. Mais c'est une manière peut-être de la poser pour rendre explicite le contenu finalement de la bifurcation, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de transition et même pour nous de bifurcation écologique et sociale sans trop rentrer dans le contenu, et donc d'essayer de mettre un peu de contenu dans ce que nous entendons par bifurcation, en essayant de rendre ce contenu plutôt positif, avec une connotation positive. Alors peut-être pas évidemment pour les plus riches ou les détenteurs de capitaux. Évidemment, on a bien conscience que les propositions qu'on fait ne sont pas peut-être. Enfin, on a tout à fait conscience même que les propositions qu'on fait ne concernent pas évidemment l'ensemble de la population. Mais pour nous, effectivement, cette séparation est fait effectivement de prendre acte que la société est une société qui est divisée, et ne nous pose pas un problème éthique. C'est-à-dire que, par exemple, de dire que le contenu de la bifurcation que nous proposons va contraindre peut-être les plus riches, ça, pour nous, ça ne constitue pas un problème éthique. Au contraire. Alors enfin, avant de passer la parole à mes co-auteurs, je voudrais quand même dire que ce qui est le fil rouge peut-être de ce travail, c'est que la condition de cette bifurcation et je pense aussi sa visée, c'est la réduction des inégalités, mais dans toutes ses dimensions. Évidemment, la réduction des inégalités économiques, c'est un classique chez nous, mais aussi des inégalités d'accès aux valeurs d'usage et aux besoins justement que nous proposons en termes de santé, de logement, d'éducation et de culture justement. Et donc, quand je dis que c'est la condition, c'est que, évidemment, quand on est dans une société qui est trop divisée et trop cliviée, évidemment, on est dans des situations de verrouillage et de blocage que nous tentons de dénoncer. Cette question d'égalité, c'est aussi pour éviter de tomber dans le piège de ce qui pourrait être une stigmatisation des classes populaires dans la bifurcation que nous proposons sous le coup de bon voilà, les classes populaires sont pas prêtes au renoncement nécessaire à la bifurcation, ils sont irresponsables, etc. Donc nous voulons effectivement prendre les choses vraiment d'une autre manière, au contraire même, et faire le pari que ce que nous proposons est un projet populaire en fait, une bifurcation sociale et populaire, sociale et écologique, dans ce sens qu'elle est d'aller populaire.
Merci au compte YouTube des économistes atterrés pour cet extrait de conférence que vous pourrez retrouver avec Mireille Bruyère, qu'on a entendu le lundi 6 juin prochain à 16h pour se poser collectivement la question « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» Allez, on arrête un petit peu de faire la tête, c'est comme un lundi sur Radio Amitsis.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
C'est la fin de ce Comme un lundi du 23 mai 2022. Merci à Mathieu Alloz de nos amis de Erdotam pour sa participation à cette émission. Biocybelle, c'est donc au parc de la Bousquetarie à Groyer. C'est ouvert à tous et toutes. L'entrée est libre. Rappelez-vous que si vous voulez avoir le programme complet ou si vous souhaitez devenir bénévole pour Biocybelle, rendez-vous sur le site nptarn.org ou par téléphone au 05 63 57 60 00 05 63 57 60 00 ou encore par mail contact@nptarn.org. On n'a pas parlé de la venue de l'économiste Jacques Généreux avec sa conférence intitulée « Quand la connerie prend le pouvoir » qui aura lieu le dimanche 5 juin à 16h. On ne l'a pas fait parce que cause de calendrier serré, mais sachez qu'il sera bien sur la foire. Et on n'a pas non plus parlé de la CRIRAD qui sera aussi sur la foire Biocybelle avec la projection du film Invisible Retombée le lundi 6 juin à 14h, une projection de débat. Mais on y consacrera tout un magazine à Gardarem la Terre mercredi prochain, le 1er juin, à midi et 18h. Bonne semaine et à 17h.